Philippe Braque, un peu de magie, c'est ce qu'on espère trouver quand on assiste à un spectacle. Et on parle d'un spectacle qui est assez intriguant. Si on se fie au titre, je pensais d'abord que c'était le titre d'un traité philosophique, et non. Ça s'appelle « La suspension consentie de l'incrédulité » et c'est le titre du spectacle solo écrit et interprété par Émilie Perrault. Émilie Perrault, que vous connaissez bien, journaliste culturelle, animatrice, autrice, chroniqueuse. Bonjour Émilie.
Bonjour Hélène.
Émilie, donc, vous allez quitter votre fauteuil de spectatrice pour monter sur la scène. Comme Philippe Braque le disait, vous allez échanger les rôles.
Mm-hmm.
Et ma première question, c'est est-ce que c'est vrai que votre spectacle est né d'un « t'es pas game »
Ben oui, un peu, effectivement. C'est une rencontre avec Caroline Parent, qui est la directrice artistique du Festival Fou de Théâtre à l'Assomption. Donc, moi, j'étais co-porte-parole avec Simon Boulris. Et elle avait envie de nous donner une carte blanche pour faire de la création. Donc, Simon présentait un spectacle autour de son recueil de poésie, Géolocaliser l'amour. Et là, Caroline venait de lire mon essai Service essentiel. Puis elle s'est dit, il me semble que ce serait chouette que tu essaies de faire quelque chose de théâtral autour de ça. Mais pas une conférence, parce que je fais déjà des conférences.
Mm-hmm.
Et je me dis, ah, ben OK, je vais essayer d'écrire, voir s'il y a quelque chose qui se peut qui m'inspire. Puis rapidement, l'inspiration est quand même arrivée et je suis allée chercher un peu de validation auprès de Jean-Philippe Lehoux, qui est un dramaturge que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé sa pièce, entre autres Napoléon Voyage, qui est un solo. Et donc, je suis allée prendre un café avec lui, je lui ai expliqué un peu les idées que j'avais. Puis rapidement, il m'a dit, écoute, tout ce que tu me dis là, c'est un spectacle, va t'asseoir, écris-le, t'as le matériel qu'il faut. Puis on dirait que ça a été la petite tape dans le dos dont j'avais besoin là, pour passer à la prochaine étape.
Vous avez eu en quelque sorte sa bénédiction. Alors,
oui.
Émilie, c'est quoi exactement la suspension consentie de l'incrédulité?
Bon, ben le concept, à la base, ce que ça veut dire, c'est cette action qu'on fait quand on est au théâtre, d'accepter la convention qui est devant nous. C'est-à-dire qu'on le sait que c'est Guylaine Tremblay qui est devant nous, mais
oui,
notre cerveau est capable d'accepter que c'est un personnage. Et quand ça fonctionne, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on suspend notre incrédulité. Donc, on met de côté notre scepticisme et on s'abandonne à l'histoire. Quand ça fonctionne pas, ben c'est là où souvent on le sent. Ou des fois, on est assis dans une salle de spectacle, puis ça marche pas, ça opère pas, il y a pas de magie. Ben souvent, c'est qu'on n'a pas consenti à la proposition. Donc c'est ça que ça veut dire à la base. Et moi, je pense que je suis quelqu'un qui suspend assez facilement son incrédulité parce que mes plus grands bonheurs de spectatrice, je les vis souvent au théâtre. Puis quand ça se passe, pour moi là, c'est de l'ordre de l'épiphanie. Donc c'est de ça dont j'avais envie de parler dans ce spectacle-là. Donc je revisite mes propres souvenirs de spectatrice, mais de façon plus générale, j'intègre aussi des notions théoriques qui expliquent pourquoi on vit ou on vibre autant quand on va voir un spectacle.
Votre spectacle est présenté en format 5 à 7. Ça veut dire quoi, ça? Vous allez nous raconter vos expériences en tant que spectatrice professionnelle aussi. Un verre à la main?
Ben non, moi j'aurais pas un verre à la main, mais vous aurez un verre à la main parce que c'est ça, c'est vraiment un concept qui a été importé, je pense, d'Écosse. C'est
ouais.
A pie, a pint and a play. Et donc ce sont de courtes pièces avec lesquelles donc quand les gens viennent voir le spectacle, il y a une bière qui leur est offerte, il y a également une petite collation qui est offerte. Donc c'est vraiment d'avoir un format un peu plus décontracté pour aller au théâtre. La Licorne le fait pendant des années, 17 donc le fait depuis quelques années. Puis ce qui est chouette, je trouve, dans la formule de 17, c'est qu'on est carrément dans les coulisses de la grande scène. Donc ça, c'est encore plus intéressant comme spectateur d'avoir accès à un lieu auquel on n'a pas accès habituellement.
Alors, on est dans les coulisses. Moi, j'y serai à la première mercredi. J'ai très hâte d'aller vous entendre et de vous voir. Je me demandais comment ça se passe. Est-ce qu'on est autour de vous ou vous êtes devant nous? C'est quoi la mise en scène?
En fait, c'est ce qui est chouette, c'est que chacune des pièces qui a été présentée dans les coulisses jusqu'à présent n'ont pas choisi la même configuration. Donc, moi, je pense que c'est la première fois qu'on le fait de cette façon-là. Mais donc, les gens vont être assis face à moi. Je suis sur une scène, mais c'est sûr que c'est rien de l'ampleur de la vraie scène de 17. On est vraiment comme... Je suis pas au centre de l'action. Donc, il y a des moments où je vais être carrément dans la salle avec les gens. Puis, il y a d'autres moments où je prends mon courage à deux mains et je monte sur scène, même si je dis pendant tout le spectacle que... Moi, j'ai pas envie d'être sur scène. Ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est vraiment d'être une spectatrice.
Mais vous avez pas envie, mais vous avez envie parce que vous l'êtes finalement sur scène.
Oui.
Ouais.
Ben c'est ça. C'est un gros paradoxe. ça, Hélène. Je suis encore en train de travailler la raison de tout ça, mais c'est comme si cette parole-là peut pas exister. Tu sais, j'ai écrit des livres, j'ai fait des podcasts, je fais de la radio, mais c'est comme si ce que je veux dire dans ce spectacle-là peut juste être dit sur une scène, parce que je parle de ça, de pourquoi on va voir des spectacles. Donc, il faut, on dirait que moi aussi, je joue le jeu d'aller sur scène pour parler de ce sujet-là, puis jusqu'à présent, on a fait quelques représentations devant de petits groupes, mais c'est vraiment enrichissant la discussion qui suit ça, parce que je pense qu'on parle pas souvent justement de cet angle-là,
non,
de pourquoi on est des spectateurs. Donc, j'ai hâte de rencontrer les gens avec ce spectacle-là.
Mais j'imagine que vous avez trouvé des réponses avec votre expérience, les livres que vous avez écrits, les artistes que vous avez rencontrés, et aussi le public en général. Pourquoi on va voir des spectacles?
Ben, il y a plein de raisons, mais oui, effectivement, moi, je pense qu'il y a des choses qui se passent quand on est dans une salle qui se passent pas ailleurs. Il est question, entre autres, d'empathie physiologique. Tu sais, souvent, on a l'impression que les livres ou le théâtre, ça développe notre empathie, mais c'est pas juste émotionnel, c'est même physiologique. C'est-à-dire que d'être dans la même salle, de regarder un spectacle de danse quand on est là en personne, on vit pas la chose de la même façon que de le regarder à travers un écran. Donc, il y a cet effet-là sur le corps qui est important. Après ça, il y a tout ce qu'on vit à l'intérieur, la catharsis, évidemment. On va voir des spectacles, ça nous fait penser à quelque chose qu'on a vécu. Parfois, ça nous permet de pleurer des larmes qu'on n'aurait pas pleuré autrement. Ça nous permet de rire. Donc, il y a tout ça. Pour moi, c'est vraiment de l'idée de prendre soin de sa santé culturelle. Puis moi, sincèrement, ce que j'aime dans le fait d'être une spectatrice, c'est qu'on n'attend rien de moi. Puis ça me fait tellement du bien, cet état-là, là, de juste dire pendant 2 heures, je ferme mon téléphone. Il n'y a personne qui peut me rejoindre parce que c'est peut-être un des seuls endroits où on se permet de faire ça. Et là, je suis assise et je peux juste m'abandonner à ce qui se passe devant moi. Puis ça, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien.
Et on est entouré, on vit l'expérience ensemble.
Oui, ça ajoute ça aussi, effectivement.
Émilie Perrault, est-ce que vous avez le sentiment de vous jeter dans la gueule du loup en traversant le miroir? Parce que, bon, vous êtes journaliste culturelle depuis des années. Vous en avez fait des entrevues, vous en avez vu des spectacles, vous avez fait des critiques. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous attend avec une brique et un fanal, même si j'aurais pas peur à votre place?
Mais... Non, c'est sûr que je pense qu'il y a une grande part d'insouciance au départ avec ce projet-là. Il y avait comme quelque chose de « je sais pas trop dans quoi je m'embarque, je l'essaie, j'ai fait une mise en lecture, la réaction était bonne, ah, je suis curieuse, je vais aller voir un peu plus loin ». Là, ce qui se passe, c'est que vraiment depuis 3 mois, on est dans les répétitions. T'sais, depuis septembre, on a commencé, mais je dirais après les fêtes, là, vraiment, on a fait ça plus intensément. Donc là, en ce moment, j'ai quand même confiance au processus. Je me dis, hey, on a mis tellement d'heures là-dessus, je pense que ce que j'ai à dire vaut la peine. Après... Il reste quand même que, oui, tu sais, en ce moment, là, plus on se rapproche de la date de la première, j'ai un trac, évidemment, là, qui embarque. Puis je pense que c'est nécessaire aussi d'avoir le trac. Si on ne l'a pas, on ferait rien. Mais je suis encore dans une belle zone d'inconnu. Puis je pense que c'est correct aussi. Tu sais, ça fait du bien de sortir de notre zone de confort. Puis en ce moment, je peux dire qu'il n'y a absolument rien de confortable.
Alors, le trac, c'est vrai que c'est sain. Comme disait Sarah Bernard à quelqu'un qui disait « Moi, j'ai pas le trac avant de monter sur la scène », elle lui avait dit « J'imagine que vous le savez, inquiète-toi pas, ça va venir avec ça vient avec le talent.
Ouais. » Wow, moi, j'avais jamais entendu ça.
Émilie, est-ce que vous avez déjà eu le rêve d'être une comédienne?
Non, vraiment pas. Puis je parle beaucoup de ça dans la pièce, justement, que c'est justement dans mes cours de théâtre que je me rendais compte que moi, j'avais jamais envie d'être sur scène. Ce que j'avais envie, c'est de regarder les autres. C'est vraiment, c'est sincère, ce désir-là. Moi, ce qui me motive, mon moteur, c'est vraiment l'amour de la culture. J'adore faire des entrevues. J'ai pas de problème mais sur scène en parlant en public. Comme je dis, je fais souvent des conférences, mais j'ai pas cet appel-là vraiment de jouer. C'est pas un talent, je pense, que je possède de toute façon, mais c'est juste que j'aime vraiment mieux regarder. Donc, c'est ça qui est d'autant plus le paradoxe que j'aille sur scène, parce que c'est vraiment pas un rêve qui fait, tu sais, ça faisait pas partie de mon plan de carrière. C'est juste une espèce de concours de circonstances. On m'a proposé quelque chose, j'ai eu envie d'y aller, puis là, maintenant, je plonge. Tu sais, je sais pas, peut-être que là, j'aurais envie de jouer. Je penserais pas, là, bien, sincèrement.
On verra, la vie est longue.
Oui, mais exact.
C'est ça, parce que c'est une sorte de défi que vous avez décidé de relever, mais c'est aussi une mission que vous portez, parce que vous voulez, bien, je sais pas si vous voulez convaincre absolument. Les gens qui sont dans la salle, ce sont déjà des convaincus.
Oui, mais quand même, je pense que ça fait un peu... C'est comme si... des fois, je parle avec des gens. Récemment, justement, j'ai des discussions autour du spectacle. Puis, tu sais, je croise beaucoup de gens qui n'aiment pas aller au théâtre. Puis moi, on dirait que c'est comme si dans ma tête, je comprends pas comment tu peux ne pas aimer ça. Mais ouais. C'est peut-être aussi parce que moi, ma suspension, elle embarque facilement. Je suis capable de. Mais oui, il y a une partie de moi qui a un petit peu envie de convaincre les gens. Puis je suis bien consciente que si on achète un billet pour venir me voir, c'est probablement déjà des gens qui pensent un peu comme moi. Mais ce que j'espère, en fait, c'est que ces gens-là vont traîner quelqu'un d'autre qui peut-être est moins à l'aise au théâtre. Puis surtout qu'en ressortant du spectacle, ils vont avoir envie de partager leur amour du théâtre avec d'autres gens. C'est ça que j'espère un peu. S'il peut y avoir une espèce d'effet d'écoulement là, à travers tout ça, ça serait vraiment mon bonheur.
Est-ce que l'humour fait partie de votre solo?
Oui.
Parce que vous êtes une fille drôle, vous avez de l'esprit.
il y a quand même, ça arrive beaucoup, effectivement, mais il y a une espèce de moment où tout à coup, on va plus du côté, il y a quand même aussi un peu de drame à travers des histoires de catharsis et tout ça. Et puis, ça dépend quand je l'ai fait. J'ai fait 3 mises en lecture à l'époque, il y a 1 an et demi au Festival Foot Théâtre, et j'avais trouvé ça étonnant de voir comment d'une représentation à l'autre, les gens le recevaient pas du tout de la même façon. Il y a un soir où c'était très dramatique, il y a un soir où j'avais l'impression d'être dans un spectacle d'humour, puis je trouve ça bizarre, parce que je me dis, mon Dieu, mais c'est exactement le même texte. Fait que je ne sais pas ce qui fait. Est-ce que c'est un effet d'entraînement? Il y a une personne qui rit un peu plus fort, puis là, tout le monde s'abandonne. C'est très intriguant, tout ça.
Mais ma question est un peu inspirée du fait que c'est Charles Dauphinet qui signe la mise en scène, le même qui a fait la mise en scène pour Jean-Sébastien Girard.
Mm-hmm.
Mais c'est deux spectacles totalement différents. Ici, on n'est pas dans un show humoristique. Mais
non,
comme
non,
vous disiez...
Ça. On n'est pas dans un show humoristique, mais c'est quand même pas innocent comme choix de mise en scène, parce qu'effectivement, ce que j'aimais de Charles Dauphinet, c'est qu'il travaille autant en humour qu'en théâtre, qu'au cirque, avec il a fait des mises en scène de Fred Pellerin à l'OSM. J'aimais cette idée-là qui n'était pas que dans le théâtre, parce que la forme de mon spectacle est quand même un peu particulière. On ne sait pas exactement... Elle ne rentre pas dans aucune étiquette. Donc, j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui avait aucun a priori. Par exemple, justement, il y a certains codes de l'humour probablement qui se retrouvent dans ce que je fais. Il y a certains codes du théâtre aussi. Donc, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui était assez ouvert d'esprit. Puis Charles était la personne parfaite pour ça.
Et pouvez-vous nous parler du premier spectacle d'art vivant auquel vous avez assisté? Celui peut-être qui a été aussi la bougie d'allumage, là, où vous êtes dit, je suis là, puis je veux y retourner absolument.
Ouais, ben moi c'est vraiment Variation énigmatique. Puis j'en parle dans la pièce. Ouais, c'est Variation énigmatique de Éric Emmanuel Chimier. Ouais. Donc c'était avec Guy Nadon et Michel Rivard. Donc moi je suis en secondaire 5 à ce moment-là. J'étudiais en option théâtre à l'école. Puis avec 2 amis, on a décidé de se prendre un abonnement. Donc on paye nous-mêmes nos billets. Mon Dieu, une adolescence très difficile, Hélène. Grosse crise d'adolescence. Alors on s'est pris un abonnement. Puis on allait au théâtre comme des adultes, mais on retournait coucher chez nos parents après. Et donc c'était au Centre culturel de Joliette. Et la pièce qui était en tournée à ce moment-là, c'était Variation énigmatique. Puis vraiment, je savais pas ce que je m'en allais voir et j'ai été happée par cette histoire-là parce qu'il y a des revirements, tellement des bons punchs à 3 moments dans la pièce. Puis bon, Guy Nadon, Michel Rivard sont des comédiens extraordinaires, mais je me rappelle vraiment que ça, il y a quelque chose qui s'est passé de me sentir tellement bien d'être dans la salle puis de me dire oh mon Dieu, tu sais, je me sens intelligente, je me sens, tu sais, je comprends où est-ce que ça s'en va cette affaire-là, puis en même temps je suis émue. Ça a été vraiment pour moi un moment très très important dans ma vie de spectatrice.
Variation énigmatique, je me souviens, moi je l'avais vu au théâtre du Rideau Vert et c'est extraordinaire hein, quand la magie opère justement.
Oui.
Et Émilie, je voulais aussi vous demander, parce que vous êtes un peu partout, vous êtes animatrice d'une émission qui est quand même assez exigeante, là, parce que vous êtes au quotidien Radio-Canada, Il restera toujours de la culture. Vous écrivez, votre dernière parution, je crois, c'est le roman Jeunesse en rigolo.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fait courir, Émilie Perrault?
Mais ça a l'air de courir, mais c'est tous des projets de longue haleine. Hein. Donc, tu sais, en rigolo, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a 2 ans et demi, mais le temps que les illustrations se fassent et tout ça. Donc, j'essaie maintenant, en fait, juste de suivre l'inspiration, d'être collée sur mon instinct. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je me mets pas de barrière, puis je me mets à l'écriture. C'est sûr que là, cette année, ça a été effectivement un défi de conjuguer le théâtre puis la radio, mais on y est arrivé. Donc, j'avais beaucoup de répétitions le matin de 9h à 11h, puis après ça, 11h, je partais à la radio, je préparais l'émission de la journée. là, en ce moment, je suis en pause de radio pour 2 semaines pour vraiment y aller. J'ai croisé dans les dernières années quand même beaucoup d'artistes qui ont aussi eu des horaires assez chargés comme ça, entre autres Sophie Cadieux, que je regarde de loin. Puis à chaque fois que tu parles à Sophie, elle répond des trucs comme « Ah, oh, c'est crunchy! » Genre « OK, crunchy! » Je trouve que c'est une belle expression. Donc, jusqu'à présent, je suis capable de naviguer là-dedans, mais je suis quand même très... j'ai vraiment à cœur aussi d'avoir une vie personnelle bien développée, puis mm-hmm. je veux garder du temps pour moi aussi. Donc, tu sais, l'été, j'ai une bonne pause de 6 semaines de radio. Ça me permet de me ressourcer, mais je garde ça aussi en tête. Donc, j'ai pas une ambition incroyable comparativement à ce qu'on pourrait penser. Là, je cours pas après les milliers de projets. C'est juste que des fois, il y a des choses qui arrivent en même temps. Mais j'essaie vraiment de faire attention de pas tomber dans la surcharge de travail. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse.
Qu'est-ce qui vous donne envie de prendre des risques, d'aller là où on vous attend pas?
Des fois, je pense que plus je vieillis, je me rends compte que quand quelqu'un te fait confiance et te propose quelque chose, ça vaut la peine d'y aller. Je me rappelle quand j'avais rencontré Paul Arcand pour être... il m'avait approché pour que je sois la chroniqueuse dans l'émission du matin. Mm-hmm. J'étais la remplaçante. C'était des années que je travaillais là, mais je disais toujours que moi, je voulais pas faire ça parce que ma vie personnelle, je trouvais que c'était un horaire qui avait pas de bon sens et tout ça. Puis à un moment donné, Paul est juste venu s'asseoir avec moi, on a pris un café, puis il dit « Là, je sais que tu veux pas la job, mais je veux que tu me dises pourquoi. » Fait que là, je réponds un peu ça, là, ma vie personnelle. Puis il me regarde, puis il dit, ben, moi, en tout cas, il dit, je pense que tu as un potentiel, puis je pense que tu pourras aller plus loin. Puis juste ça, tu sais, de te faire dire ça par quelqu'un, tu fais, ah, ben, OK,
par Paul Arcand, entre autres.
Par Paul Arcand, entre autres. Ouais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, un peu quand Caroline Parent m'appelle, elle me dit, hey, il me semble que tu pourrais faire un truc théâtral. Juste ça, maintenant, on dirait que j'ai envie de croire ces gens-là, puis de dire, si eux, ils voient quelque chose, pourquoi j'y vais pas, moi aussi? Puis, tu sais, je vais chercher la validation, c'est ce que j'ai fait aussi avec Jean-Philippe Lehoux. Donc, c'est ça, en fait, qui me donne l'énergie d'essayer des choses un peu hors de ma zone de confort. Mm-hmm.
L'enfer, c'est pas nécessairement les autres.
Non.
Dans ce cas-ci.
C'est pas pour moi.
Émilie, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, j'invite les gens, donc, à aller découvrir cette proposition qui s'intitule « La suspension consenti de l'incrédulité dans les coulisses de chez Jean Duceppe à partir du 16 avril. C'est demain, là?
Exactement!
Et puis, c'est jusqu'au 3 mai en formule 5 à 7. Je vous dis le mot de Cambronne.
Je l'accepte.
Au plaisir, Émilie.
Merci, Hélène, pour l'entrevue.
Ça fait plaisir.